RFI, soyez les bienvenus. Il est midi à Paris, 11h temps universel, 13h à Jérusalem.
Margot Ratézic.
5 otages du Hamas ont été libérés. Le processus d'échange d'otages et de prisonniers palestiniens se poursuit. Nous ferons le point avec Michel Paul à Jérusalem. Volodymyr Zelensky, traité de dictateur, accusé par Donald Trump d'avoir commencé la guerre avec la Russie. Des propos qui ont choqué, nous l'entendrons jusque dans les franges conservatrices américaines. Enfin, nous nous intéresserons à Wall Street, la bourse américaine en chute. Et puis nous retrouverons notre envoyé spécial en Allemagne à la veille des législatives anticipées. Olaf Scholz veut croire qu'il a encore le temps de convaincre les indécis. 5 otages du Hamas ont été libérés ce samedi dans la bande de Gaza sur différents sites. 3 d'entre eux viennent d'être exhibés par le mouvement islamiste palestinien. Et plus tôt dans la journée, à Rafah, Tal Shoham, un binational israélo-autrichien, a été libéré en compagnie d'Avera Mengistu, un Israélien d'origine éthiopienne retenu à Gaza depuis plus de 10 ans. Michel Paul, à Jérusalem, le processus se poursuit donc.
Oui Margot, des libérations plus complexes que lors des précédentes semaines. Au dernier moment, le Hamas a ajouté un troisième site. Le second temps de cette libération vient en tout cas lui de s'achever. Il s'est déroulé au camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Mais le décor est le même, avec la mise en scène désormais habituelle. Alors pour cette seconde partie, 3 Israéliens ont été libérés, dont un binational israélo-argentin. Tous 3 capturés lors du festival de musique Nova le 7 octobre. Les visages sont émaciés, ils arborent des certificats de libération et aussi des sachets avec les souvenirs offerts par le Hamas. Plus tard, ce sera le tour de Hicham al-Sayed, un bédouin âgé de 36 ans qui souffre de troubles psychiques dans un troisième site pas encore connu. Tout comme Avera Mengistu, il a été retenu à Gaza depuis plus de 10 ans après avoir traversé la frontière de son plein gré. Auparavant, donc à Rafah dans le sud, 2 autres Israéliens ont été rendus à la liberté. Ils sont déjà en territoire israélien où ils ont pu avoir une première rencontre avec les membres de leur famille. Enfin, en Cisjordanie, 602 détenus de sécurité palestiniens doivent être eux aussi libérés dans le cadre de ce 7e échange. Jeudi, 4 corps d'otages doivent être encore rendus à Israël.
Merci Michel Paul à Jérusalem pour RFI. Et on a appris que le nouveau corps rendu vendredi par le Hamas est bien celui de l'otage Shiri Bibas. La famille confirme, la restitution de la dépouille de cette mère de famille de 33 ans avait donné lieu à une confusion. Le Hamas évoquait hier une possible erreur sur le corps initialement remis à ses proches. Volodymyr Zelensky a été victime ces derniers jours de nombreuses invectives de son homologue Donald Trump. Le président ukrainien a notamment été qualifié de dictateur, accusé publiquement d'avoir commencé la guerre contre Moscou. Des propos qui ont surpris et choqué un peu partout dans le monde, et ce jusque dans les milieux conservateurs américains, comme le raconte notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin.
Ça, c'est un dictateur sur une photo de Vladimir Poutine. C'est la une du New York Post, un tabloïd new-yorkais qui a soutenu Donald Trump. Le journal n'appartient pas à n'importe qui, c'est la propriété de Rupert Murdoch, mania des médias, conservateur et qui était encore il y a quelques jours dans le bureau ovale aux côtés du président américain. Le Wall Street Journal, son quotidien du milieu des affaires, explique la même chose dans un édito et l'ensemble des journaux du groupe, notamment en Europe, sont sur la même ligne. Les propos de Donald Trump ont tellement choqué que même son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a évité de dire comme son patron que Volodymyr Zelensky est un dictateur qui a lancé la guerre, même s'il lui a publiquement demandé de baisser d'un ton. C'est surtout l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, qui mesure ses paroles. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il qualifie Volodymyr Zelensky de chef courageux d'une nation en guerre et il parle de sa talentueuse équipe de sécurité nationale, un autre ton dont on peut se demander s'il illustre un changement de posture ou simplement une volonté de surprendre et de déstabiliser dans une négociation dont Donald Trump se veut le maître. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et dans ce contexte, de nombreuses inquiétudes pèsent sur la santé économique des États-Unis. Wall Street, la bourse américaine, était en chute ce vendredi. Le Dow Jones a décroché d'1,69%. L'indice Nasdaq a quant à lui plongé de 2,2%. Éclairage, il semblerait que ce soit bel et bien la fin de l'euphorie post-élection de Donald Trump.
Oui, l'envolée de Wall Street s'est interrompue brutalement vendredi avec la plus forte baisse des valeurs vedettes de Wall Street et celle de la tech depuis 2 mois lors de l'incident boursier lié au chinois DeepSeek et à ses performances dans l'IA. Plusieurs rapports alimentent l'inquiétude sur la première économie mondiale en perte de vitesse. La confiance des consommateurs américains s'est fortement dégradée en février. Ils sont déjà confrontés aux coûts élevés du crédit et ils craignent une augmentation des prix liée aux taxes sur les importations décidées par Donald Trump, sans compter les milliers de suppressions d'emplois publics, ce qui se traduit déjà par un ralentissement des ventes de détail et un coup de frein des ventes d'immobilier, moins 5% en janvier. Ce mois-ci, l'activité dans les services s'est contractée pour la première fois depuis 2 ans, tandis que les industriels voient déjà augmenter leurs coûts opérationnels, fournitures et salaires. L'enthousiasme créé par un Donald Trump qui s'affichait très pro-business semble donc s'évanouir dans les milieux d'affaires. Sa politique protectionniste revient comme un boomerang sur l'économie américaine, également lestée par les incertitudes géopolitiques.
Merci Claire Fage, journaliste économie à RFI. Et Donald Trump, lui, poursuit sa série de purges au sein du Pentagone. Dernier mouvement en date et le plus significatif sans doute, le remplacement du chef d'état-major de l'armée américaine. Le général Charles Brown laissera sa place à Dan Kane, un pilote qualifié d'expert en sécurité nationale par le président américain. Donald Trump qui est attendu ce samedi à la tribune de la CPAC près de Washington, la réunion des conservateurs américains. En Allemagne, J-1 avant les élections législatives anticipées. Ce dimanche, ce sont 60 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour le renouvellement des 630 sièges du Bundestag. Victoire attendue du chrétien-démocrate Friedrich Merz. Face à lui, Olaf Scholz, le chancelier sortant, a réuni ses partisans à Dortmund, dans l'Est. Il plafonne pour l'instant à la 3e place dans les sondages, derrière les chrétiens-démocrates donc, et derrière l'AfD, l'extrême droite allemande. Mais Olaf Scholz veut croire qu'il a encore le temps de convaincre les indécis. À Dortmund, le reportage de notre envoyé spécial Julien Chavanne.
Sans cravate, micro à la main, Olaf Scholz arpente la scène avec un message: pas question de baisser les bras.
Le SPD est bien plus fort que ce que disent les sondages. Les gens qui hésitent encore doivent décider maintenant.
Le chancelier sortant promet toujours une remontada, mais dans la salle, Nora Schmidt, 19 ans, est inquiète.
J'ai peur parce que je ne sais pas comment tout ça va finir. Mon père vient du Maroc, donc je ne sais pas si la vie sera la même si l'AfD a autant de voix.
La campagne du SPD n'a jamais décollé, plombée par la crise économique et par la série d'attaques meurtrières. Olaf Scholz n'a rien pu faire, regrette Michael.
Il y avait beaucoup trop d'attentes et peut-être que le chancelier n'est pas le meilleur communicant.
Le chancelier sortant répète qu'il peut toujours convaincre les indécis. Un tiers des électeurs hésitent encore. Sven, écharpe rouge du SPD autour du cou, y croit encore.
Je pense que nous pouvons convaincre beaucoup de gens aujourd'hui et dans les jours à venir. Et je suis très optimiste. Nous aurons un meilleur résultat que ce que prédisent les sondages.
Mais pour Michael, il est déjà trop tard.
Il n'y a aucune chance. Franchement, c'est fini. La partie est terminée.
Julien Chavanne, Dortmund, RFI.
Et pour mieux comprendre les enjeux liés à ce scrutin en Allemagne, rendez-vous sur le site et l'application de RFI. Ce samedi, notre correspondant à Berlin nous dresse un état des lieux du pays. À lire donc sur www.rfi.fr. Nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat et des accords commerciaux. Déclaration d'Emmanuel Macron en marge de l'inauguration du Salon de l'agriculture à Paris. C'est un rendez-vous politique incontournable en France. Le Salon de l'agriculture a donc ouvert ses portes. Le président français y est attendu au tournant par la profession. Alors cette année, pas d'insultes ni de bousculades comme on a pu voir l'an dernier. Mais les revendications des agriculteurs sont toujours très nombreuses autour, notamment de l'accord entre l'UE et le Mercosur ou encore des possibles taxes de Trump. Le président français a d'ailleurs prévu de rappeler à Donald Trump qu'entre alliés, je cite, on ne peut pas faire souffrir l'autre avec des tarifs douaniers. Rencontre prévue ce lundi à Washington entre les deux dirigeants. Manuel Valls, sous les huées en Nouvelle-Calédonie, le ministre français des Outre-mer a lui été chahuté par des loyalistes qui s'opposent à l'indépendance de l'archipel. RFI, il est bientôt midi 10, 11h10, temps universel, c'est la fin de ce journal, tout de suite, Carrefour du Maghreb.